Les Canuts, troisième partie, chapitre 5. Il était 3 heures de l'après-midi. Une réunion extraordinaire se tenait chez Bresner et la grande salle du cabaret regorgeait de monde. La rue, tout le quartier, était en effervescence. Dans la matinée, une dépêche télégraphique avait apporté à Lyon la nouvelle que la loi contre les associations avait été adoptée. Sans retard, les comités des mutualistes et des droits de l'homme avaient convoqué leurs adhérents pour aviser aux mesures à prendre en présence de cette loi qu'ils considéraient comme une déclaration de guerre. Au milieu d'un grand tumulte, Gauthier, qui présidait, terminait une longue harangue. « Ouvriers, disait-il, persistez dans les résolutions que vous avez prises. Citoyens, continuez à serrer vos rangs. Que l'union, la confiance, soit plus entière que jamais. La résistance devient une obligation sacrée. Elle est commandée par le devoir et la nécessité. C'est le pouvoir lui-même qui déclare la guerre civile. Le peuple se lèvera en masse et envahira les places publiques pour affirmer son droit d'association et malheur à qui lui barrera le passage. » Le vacarme augmentait. C'était des cris et des applaudissements. Des orateurs se succédèrent à la tribune sans parvenir à se faire écouter. Par intervalles, des mots violents, des injures à l'adresse du gouvernement s'entendaient dans le brouhaha et provoquaient des trépignements d'enthousiasme. Cependant, un chef d'atelier venait de monter, un papier à la main, sur la table qui servait d'estrade. Au nom de tous les tisseurs, mutualistes ou ferrandiniers, il donna lecture d'une protestation contre la nouvelle loi. Les mutualistes déclaraient qu'ils ne courberaient jamais la tête sous le joug, que leur réunion ne serait point suspendue. S'appuyant sur le droit de vivre en travaillant, ils sauraient résister, avec toute l'énergie qui caractérisait des hommes libres, à toute tentative brutale, et ne reculeraient devant aucun sacrifice pour la défense d'un droit qu'aucune puissance humaine ne pourrait leur ravir. Des bravos éclatèrent. « Vive les mutualistes ! Vive les ferrandiniers !» Le tisseur descendit. Un cordonnier succéda, puis un chapelier, un teinturier, un apprêteur. Chaque corps d'État déléguait un de ses membres qui venait, au nom de la corporation, s'unir à la masse des mécontents. Ce n'était plus l'hésitation des jours précédents. Tous protestaient avec une ardeur farouche qui achevait d'exalter les têtes. Après sa déclaration, chaque délégué se faisait inscrire parmi les membres d'un comité d'ensemble. Quand le dernier délégué eut parlé, Despinasse bondit sur la table et, d'une voix vibrante, résuma la situation. « Citoyens, s'écria-t-il. Vous venez de signer un même pacte d'alliance. Vous devenez tous les soldats d'une même cause. Mutualistes, ferrandiniers, droits de l'homme, ouvriers de toute catégorie. Levez-vous tous comme un seul homme devant le danger commun. Coalisez-vous contre l'ennemi. Le comité d'ensemble est formé. Obéissez-lui aveuglément. La lutte va commencer. Préparez-vous au combat. Si nous n'avons pas tous des armes, les soldats en ont. Et ceux qui ne seront pas avec nous, citoyens, vous saurez les désarmer. Mais vous ne serez pas seuls à affronter le péril. Au premier signal, les populations industrielles des grandes villes voisines se lèveront et viendront grossir le flot qui balayera les tyrans. Alors, vous donnerez au monde le magnifique spectacle d'un peuple secouant ses chaînes. Et que nous importe la mort, à nous qui peinons toute notre vie? Ceux qui tomberont dans la lutte pourront mourir sans regret. Leurs noms seront inscrits sur le livre de la liberté. » Enfin, emporté par sa fougue oratoire, d'Espinasse prit directement à partie les ministres et les députés. « Ce peuple, s'écria-t-il, contre lequel vous épuisez votre rage impuissante, a maintenant compris que, l'heure de l'insurrection sonnée, il ne devra déposer les armes qu'après avoir assuré sa victoire. Prenez donc vos ébats, gaudissez-vous dans cette fange que le pouvoir vous a pétrie d'or et de boue. Répondez par la force brutale au peuple qui vous demande du pain. Mais il est las de vos provocations. Il va laisser retomber sur vos têtes les fers dont vous l'avez chargé, et tout sera dit. Vive la République ! Vive la République ! » Des hurrahs sortirent de toutes les poitrines. Pendant un quart d'heure, dans l'étouffement de la salle trop pleine, ce fut un affreux vacarme. Une douzaine de mutuellistes essayaient d'apaiser leurs camarades, de leur montrer les conséquences du chômage, la misère croissante, que la guerre civile rendrait plus affreuse. Ils voulaient les convaincre de la nécessité de la reprise du travail, désirée par un grand nombre, de l'inutilité d'une lutte du pot de terre contre le pot de fer. Mais, brutalement, la bande de d'Espinasse et de Pellegrin leur imposa silence, les accabla d'injures et de menaces, les appelant vendus, traîtres, mouchards. Bousculés, poussés, acculés dans un coin, ceux-ci, s'exaspérant, tiraient leurs couteaux. « Venez-y donc, criait-il, tas de lâches !» En vain, les membres du comité s'égosillaient à réclamer le calme. Leur voix se perdait dans le bruit. Ces ouvriers sans pain, qui trompaient leur faim en buvant de l'eau-de-vie, grisés par les discours incendiaires des meneurs, inconsciemment, se ruaient les uns sur les autres, comme des bêtes fauves, avec un besoin farouche de vengeance et de sang. Tout à coup, le geste impérieux, un homme fendit les groupes. C'était Lagrange. Sa tête, au profil anguleux, aux longs cheveux rejetés en arrière, dominait la foule. Vêtu à la Robespierre, l'allure théâtrale, l'œil ardent, il agitait en l'air une canne pour se frayer un passage. Derrière lui s'avançait Granier, de la Glaneuse, et Petetin, du Censeur, maigre et chafouin sous un long manteau noir. Quand ils furent parvenus au milieu de la salle, Lagrange frappa d'un coup de canne l'abat-jour d'un quinquet dont le verre vola en éclats.
« Tonnerre de Dieu, finira-t-on ? »
La voix du chef vibra comme un son de clairon. Aussitôt, un mouvement se fit. Tous les yeux se tournèrent vers Lagrange. Lui, hautain, parcourant la salle de son regard d'acier, attendait. Le tumulte s'apaisa. On n'entendait plus que de sourds murmures.
« Quand le peuple s'enivre,
reprit-il durement,
il n'est bon que pour l'esclavage. »
Les murmures grossirent à ces mots. Du fond, un homme coiffé d'un bonnet rouge s'avança jusqu'auprès de Lagrange et, frémissant de colère, lui mit le poing sous le nez.
« Des esclaves ? Répète-le donc, Vive la République ! » cria Lagrange.
Gautier, impatient d'en finir, venait de lever la séance. Répétant le cri de « Vive la République !», la foule s'écoula par l'allée étroite et tumultueusement se répandit dans la rue. Des fenêtres s'ouvrirent. Des têtes curieuses parurent. Les femmes s'interrogeaient. Ah, que de monde, que de monde. Qu'est-ce donc qui est arrivé ? Le père Bouvet, un bonnet noir sur la tête, venait de se montrer à son tour. D'un ton solennel,
« C'est le peuple, dit-il, qui se prépare enfin à briser ses chaînes. Ah, ça a été long à venir !»
Et comme les femmes le regardaient bouche bée, ne comprenant rien à ses paroles,
« Oui, reprit-il, la Chambre vient d'adopter une loi dissolvant les associations, et tous les corps de métier ont envoyé des délégués à la Société des droits de l'homme. Ils s'unissent à elle pour secouer le joug et proclamer la République. »
Ah, mon Dieu! Encore se battre dans les rues comme en novembre, se massacrer! Ah, mon Dieu!
Pff, reprit-il, haussant les épaules. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs!
La rue s'emplissait de tous ceux qui sortaient de la Réunion et de ceux que le tumulte avait attirés des rues adjacentes. Les ouvriers causaient bruyamment, par groupes. Pellegrin déboucha de l'allée du cabaret. Il venait de s'entretenir avec Despinasse et Granier. Résolument, il chercha dans la foule et appela Belœil, qu'il avait embauché au service du comité. « Tu vas me faire la courte échelle, » lui dit-il. Le voyou s'approcha. Et, montant prestement sur les épaules de Belœil, Pellegrin se mit à agiter sa casquette, faisant signe qu'il avait à parler. Quand il vit la foule attentive,
« Camarade ! » cria-t-il. « Il ne s'agit plus de discuter. Il faut agir. Il faut vous montrer, unis et résolus, dans toute la ville. En route ! Au terreau ! Que le préfet et les fabricants sachent que nous n'avons pas peur et que nous sommes forts. Oui, oui, au terreau !»
La foule, houleuse, criait et gesticulait. Des fenêtres, c'était un grouillement de costumes pauvres, de têtes et de bras s'agitant furieusement. Des voix entonnèrent la Marseillaise. La cohue s'ébranla, Pellegrin et Despinasse en tête. Et le flot humain, s'écoulant vers le jardin des plantes, s'éloigna du côté des terreaux. Le chant révolutionnaire montait, hurlé par mille poitrines. Épouvantées, les vieilles femmes se signaient, mais, comme un vieux cheval de guerre au bruit d'une fanfare, le père Bouvet, la figure enflammée et les yeux brillants, suivait de sa fenêtre ce peuple en délire, qui descendait vers la ville, et jubilait à la pensée que ces héros de la Révolution allaient enfin semer la terreur dans le cœur des bourgeois et des riches. Ce soir-là, des fabricants en quête de nouvelles étaient réunis au Café Grand. M. Berthoux, qui venait d'entrer, errait à travers la salle, cherchant des yeux un visage connu. « Monsieur ?» dit une voix derrière lui. Sans être certain que cet appel s'adressât à lui, le dessinateur se retourna. À une table voisine, M. Pallia était assis en compagnie de deux de ses confrères. M. Berthoux salua le fabricant, qui l'attira à lui, et, tout bas, « Pardon, monsieur, lui dit-il, auriez-vous des nouvelles de M. Victor Jacquemin ? « Voilà plusieurs jours que je ne l'ai vu, et après ce qui vient de se passer... » M. Berthoux répondit. Il venait de décider M. Jacquemin à partir pour la campagne avec sa femme et sa fille, et, à l'instant même, il les avait accompagnés place de l'ancienne douane, où il prenait la voiture de Limoneste. « Alors, je me rassure. Vous saviez donc ?»«
Je craignais que son ancien commis, Pellegrin... »
« Oh, mais moi, j'avais la certitude !» D'un coup monté contre notre ami. Comment pouviez-vous savoir ?
Grâce à une révélation d'un brave ouvrier, avec qui un certain ivrogne du nom de Bavoira a eu la langue trop longue.
« Vraiment ? » fit M. Palliat terrifié. Les deux hommes se regardèrent en silence. On sembla les écouter.
« Oui, » reprit M. Berthoux. « Si M. Jacquemin était resté à Lyon 48 heures de plus, il aurait risqué sa vie. Je vous conterai ça une autre fois. »
« Mais enfin, les révolutionnaires se croient donc déjà les maîtres ?»«
Il paraît bien. S'ils ne se croyaient pas prêts, ils ne montreraient pas tant d'audace. Je me suis promené dans la ville aujourd'hui, et je n'ai rencontré que des visages inquiets. Ils pèsent sur les poitrines un air lourd qui annonce l'approche d'un orage. Quoi qu'il en soit, je suis persuadé que le gouvernement aura beau jeu.
Alors, vous ne croyez pas à une lutte sérieuse ? Reprit M. Palliat, commençant à se tranquilliser.
Je dis que, s'il y a une émeute, elle ne dégénérera pas en révolution, comme l'espèrent les républicains. Toutefois, la lutte pourrait être aussi sanglante, sinon plus, qu'en novembre.
Car cette fois, les troupes n'évacueront pas la ville.
Gare aux propriétaires de maisons, ajouta-t-il en riant. Ils pourraient bien, cette année, consacrer leurs revenus à faire réparer leurs immeubles.
Vous n'êtes pas rassurant. Moi qui ai 3 maisons,
vous aurez le recours de la loi de Vendémiaire.
Et puis, n'êtes-vous pas assuré contre l'incendie ?
Comme M. Palliat le regardait du coin de l'œil, M. Berthoux éclata de rire. Un commissionnaire, en soierie, assis en face de M. Palliat, avait entendu ces dernières phrases.
« Monsieur, dit-il, je crois que vous avez juré de faire passer une mauvaise nuit à M. Palliat. Il va rêver qu'on promène sa tête au bout d'une pique. »
« Je souhaite à M. Berthoux que cela ne lui arrive pas, reprit le gros fabricant. Il ferait une drôle de figure. »
« Voilà qui prouve votre bon naturel, » continua le dessinateur sur le même ton,
« et je vous en remercie. »
Se levant, il tendit la main à M. Palliat pour prendre congé de lui.
« Vous nous quittez déjà ? Vous ne prenez rien ?
Non, non, merci. Il est 10 heures. Songez donc, je demeure en plein quartier insurgé. Je ne me soucie pas d'être vu avec des bourgeois, on m'assassinerait. »
« Vous n'en pensez pas un mot, » fit M. Palliat repris d'inquiétude.
« Je parle très sérieusement. Bonsoir, messieurs, bonsoir. » Et, souriant dans sa moustache, M. Berthoux sortit rapidement.